BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Allez, bientôt 18h, bienvenue si vous nous rejoignez comme tous les soirs dans Good evening business jusqu'à 20h. Bonsoir Edwige.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à vous.
Dans l'actualité ce soir, il y a donc cette réunion autour de Michel Barnier qui s'est terminée il y a un peu plus d'une heure. Michel Barnier sera reçu par Emmanuel Macron dans un peu plus d'une heure. Bon, gouvernement ou pas.
Ça sent le gouvernement.
On verra. En tout cas, nous on va continuer à en parler de ça et puis de ce qui divise autour de la formation de ce gouvernement, c'est bien sûr les hausses d'impôts. On va largement en parler encore ce soir jusqu'à 20h. Votre invité dans 10 minutes.
Bah justement, lui, il a vu passer, alors attendez, je calcule, je crois que c'est 8 ministres en 7 ans et 7 en 2 ans. Ministre de la Santé, parce que mon invité, c'est Thierry Hulot, qui est le président du LEM. Le LEM, vous savez, c'est le syndicat de tous les labos, les industries pharmaceutiques. Lui-même, est le patron de Merck en France. Il tenait sa conf de rentrée aujourd'hui, parce qu'alors, eux, il n'y a pas de budget 2025, donc il n'y a pas de PLFSS. Vous savez, c'est le plan de financement de la Sécu. Mais en attendant, ils ont bossé, ils proposent 1 milliard d'économies. On parlera aussi de des médicaments sans ordonnance. On pourrait faire des économies grâce à ça. Le problème des dates périmées, finalement, si on écoute que choisir, et on dit c'est n'importe quoi. Enfin bref, il sera là, puis on parlera du sujet qui fâche, le crédit impôt recherche.
Évidemment, là aussi, il pourrait y avoir du toilettage, c'est l'expression qu'on entend. On dira un mot aussi de l'industrie automobile européenne dans tous ses émois. Alors, cri d'alerte aujourd'hui, parce qu'il y a de nouvelles normes CO2 qui entrent en vigueur l'an prochain. L'industrie dit on n'est pas prêt, on vend pas assez d'électrique, donc on va vers un mur d'amende pour l'an prochain. On parle de tout ça, plus de bien d'autres choses. On est ensemble jusqu'à 20h, évidemment.
À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Oui, mais avant de parler politique, parce qu'on va forcément parler un petit peu politique ce soir, on va quand même dire un mot du fameux budget 2025. Bonsoir Thomas Asportas.
Bonsoir Guillaume.
Parce que depuis le temps qu'on les envoyait, il y a des documents qui ont fuité. Alors c'est le fameux tiré à part. C'est en fait un condensé des crédits alloués au ministère.
Oui, pour faire simple, c'est ça.
Oui, qu'est-ce que ça nous dit pour l'an prochain, Thomas, finalement?
La commission des finances voulait absolument les avoir parce que c'était en gros ce que voulait faire Gabriel Attal dans son budget. C'était l'ossature du budget 2025 de Gabriel Attal. Et ce qu'on peut dire, effectivement, les documents ont été publiés dans l'après-midi, c'est qu'il n'y avait pas de grande révolution par rapport au budget 2024 du gouvernement sortant. Il n'y a que 3 milliards d'euros d'écart, en l'occurrence 3 milliards d'euros en moins de crédits accordés aux différents ministères, mais la majorité, la très grande majorité des ministères ont les mêmes crédits reconduits d'une année sur l'autre. Il y a quand même quelques différences qui sautent aux yeux, c'est ça qui est intéressant. Bon, il y a l'aide publique au développement qui perd 1,3 milliard, c'est pas anodin, sachant qu'il y avait déjà eu un coup de rabot cette année quand il a fallu faire des économies dans l'urgence. L'écologie, ça c'est très intéressant parce que c'est en trompe-l'œil. Ça gagne 2 milliards, mais en vérité, l'année dernière, ça avait gagné 7 milliards. Donc on voit bien qu'en creux, l'ambition n'est pas du tout la même. Et quand vous allez dans le détail, vous voyez que pour l'automobile verte, il n'y aura plus que le bonus écologique et le leasing. Il n'y aura plus la prime à la conversion. Pour le logement, MaPrimeRénov va être resserrée. Et pour les collectivités, le fonds vert, vous savez, c'est l'argent que l'État donne aux collectivités pour faire la transition localement, passerait de 2,5 milliards à 1 milliard. Sinon, quand vous prenez France 2030, l'investissement dans les projets d'avenir, ça perd 1 milliard, 6,7 milliards au lieu de 7,7 milliards. L'enseignement supérieur perd 600 millions alors qu'il avait gagné l'an dernier 1 milliard. Donc c'est quand même pas la même tendance. Et puis le grand perdant, pour finir, c'est le ministère du Travail. Ça avait fuité, c'est confirmé. 2,3 milliards en moins. L'État le justifie avec la baisse du chômage et annonce, ne précise pas, mais annonce des coupes dans les aides à l'apprentissage. Et puis à l'inverse, il y a quand même aussi quelques gagnants. Pour faire simple, c'est le régalien. La défense gagne 3 milliards avec la poursuite de la montée en puissance de la programmation militaire. La justice et l'intérieur conservent leur crédit. Et puis le dernier point important quand même, c'est que Michel Barnier indiquait qu'il allait partir de cet héritage de Gabriel Attal pour son budget à lui. Ça va être le point de départ de l'examen budgétaire à l'Assemblée. Ça arrive très vite, c'est début octobre, donc il ne va pas revoir complètement la copie. Il va partir de ça et après il va rester 70 jours pour amender dans tous les sens, le budget, y compris d'ailleurs de la part du prochain gouvernement. Le gouvernement lui-même peut amender son projet de budget.
Et voilà pour ce condensé très précis, c'est pas facile. Merci beaucoup Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. En attendant, je vous disais, Michel Barnier s'est entretenu avec les ténors des grands partis susceptibles de participer à un gouvernement. Il se trouve que les partenaires sociaux, eux aussi, ont été reçus depuis 48 heures par l'entourage de Michel Barnier. Et de ce qu'on a pu glaner, on sait qu'il y a des choses qui sont acquises, d'autres qui restent encore assez floues finalement. Caroline Morisseau.
Matignon n'a pas dissipé les inquiétudes du patronat. Nous n'avons eu aucune garantie. Hausse de l'impôt sur les sociétés, baisse des aides à l'apprentissage. Rien n'est arrêté, mais tout reste sur la table, nous dit-on au MEDEF. Les syndicats, eux aussi, ont eu bien du mal à sonder les intentions de Matignon, mis à part sur quelques points. L'abrogation de la réforme des retraites ou le SMIC à 1600 euros. On a bien compris que c'était non, nous dit un leader syndical. L'entourage de Michel Barnier est en revanche resté plus flou sur l'assurance chômage. Pour certains, Matignon serait prêt à redonner la main aux partenaires sociaux et, en cas de succès, à tirer un trait sur la dernière réforme et le durcissement des règles, nous dit un responsable syndical. Je n'y crois pas, rétorque un autre. Il y a près de 4 milliards d'euros d'économies à la clé. Jamais le gouvernement ne renoncera à ce pognon, nous dit cette même source. Matignon a en revanche insisté sur la nécessité de remettre les partenaires sociaux au centre du jeu. Et pour François Omeril, le patron de la CFE-CGC, cette fois, ça a l'air sincère.
Caroline Morisseau, François Omeril, le patron de la CFE-CGC, qui sera avec nous tout à l'heure vers 19h15 en direct sur BFM Business. Et alors, côté impôts, parmi les pistes de hausse d'impôts qui circulent, vous savez qu'il y a cette idée de taxe sur les énergéticiens qui pourrait coûter notamment 3 milliards d'euros à EDF. Écoutez ce que nous disait ce matin la ministre démissionnaire de l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher. Pour elle, c'est clairement pas le moment de venir taxer EDF. Écoutez.
C'est un impôt bête et méchant. C'est un impôt qui concerne une entité qui est 100% publique. Donc, prendre dans la poche de droite pour remettre dans la poche de gauche n'a aucun intérêt. C'est surtout, il ne faut pas être dupe de ça, un impôt sur les Français. Tout le monde paye l'électricité.
Ça se traduira dans la facture au final.
Tout le monde, à la fin, a un compteur d'électricité. Les plus pauvres, les plus riches, tout le monde paiera. Je ne pense pas que ce soit un bon impôt.
Voilà, c'est clair. Agnès Pannier-Runacher, ministre démissionnaire de l'Agriculture, ancienne ministre de la Transition énergétique. Elle était donc l'invitée de BFM Business ce matin, 18h05. Alors, puisqu'on parle transition énergétique, il y a donc eu ce matin cette grosse alerte du secteur automobile européen. Bonsoir, Valentin Grille.
Bonsoir.
Il y a de nouvelles normes qui vont entrer en vigueur l'an prochain. Apparemment, ça commence vraiment à faire paniquer tout le monde, Valentin.
Oui, exactement. En fait, le lobby présidé par Luca De Meo, donc à Renault, réclame des aides et d'avancer la clause de revoyure qui était prévue pour 2026 et 2027. On s'en souvient, il propose de l'avancer à 2025. Et en cause, en creux, ce qu'on comprend, c'est qu'ils ne se sentent pas prêts, les constructeurs, en fait, à respecter le nouveau plafond d'émissions de CO2 par kilomètre qui devait être imposé au 1er janvier. En gros, ça reviendrait à devoir vendre 20% de voitures électriques pour équilibrer ce plafond. Les amendes en jeu sont à près de 13 milliards d'euros. Or, les derniers chiffres de vente, on le sait, ils sont pas très bons. 12,6% des véhicules électriques ces 12 derniers mois, contre 13,6% l'année précédente. Mais point important que relevait l'association spécialisée transport et environnement hier, ce marché atome devrait être relancé par le lancement de nouveaux véhicules à bas coût dans les prochains mois et notamment au mois de janvier justement.
Et au milieu de tout ça, il y a un autre élément important, c'est les négociations avec la Chine qui va devoir payer des droits de douane désormais. Ça aussi, ça compte évidemment.
Hein. Exactement. Les Européens cherchent à endiguer l'afflux de voitures électriques chinoises. Ils ont déjà imposé 10% de base. À ça pourrait s'ajouter donc entre 17% pour BYD qui a plutôt coopéré et 36% pour SAIC qui l'a beaucoup moins fait. Les États-Unis et le Canada, on le sait, ont remonté à 100% ces dernières semaines. Mais l'UE se montre ouverte à une solution négociée. Ce sont les mots des porte-parole de la Commission, Olaf Gill. Son vice-président letton, Valdis Dombrovskis, rencontrait aujourd'hui le ministre du Commerce, Wang Wentao, avec un peu de pression justement, parce que les 27 se déchirent sur cette question. L'Allemagne et l'Espagne, ouais, notamment, s'opposent à la France et à l'Italie, ne veulent pas de ces taxes. L'Allemagne, pour pouvoir continuer à vendre, on le sait, en Chine. L'Espagne, en espérant attirer des nouvelles usines de fabricants chinois.
Et le ministre du Commerce chinois qui a fait une petite déclaration assez ambiguë, qui a dit les relations commerciales entre l'UE et la Chine sont à un carrefour. Voilà. Ça met un petit
c'est
peu
sibyllin.
C'est sibyllin, effectivement, ça donne des éléments de contexte, comme on dit. Merci beaucoup, Valentin. Valentin Grille avec nous sur BFM Business, 18h07. On va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça s'est passé ce jeudi à la Bourse de Paris?
Une sacrée belle bouffée d'oxygène.
Bah, plus, bon, oui.
Plus de 29 pour le CAC 40.
Merci Powell.
Et merci Powell. 7615 points pour l'indice vedette de la Bourse de Paris et des volumes d'échanges qui étaient quand même supérieurs à la normale à 3,7 milliards d'euros. Oui, merci Powell, avec cette baisse de 50 points de base qui était quand même supérieure au consensus des économistes. Très belle hausse de la tech, hein, la tech européenne, l'Euronext Tech Leader. Traders gagne 3%, plus de 24 pour l'Eurostock 50 qui n'était pas en reste, plus 1,55 pour le DAX à Francfort. Alors maintenant c'est tout qui monte, tous les titres qui étaient partis un peu à la casse ces dernières semaines. Regardez Beneteau qui signe la plus forte hausse du SBF 120, plus 12,6%, 9,20€. Atos qui continue sa remontée, plus 8,1%, 78 centimes, ouais exactement. Et puis du côté du CAC 40, la plus forte hausse, bon, il y a les valeurs de croissance qui se portent bien, notamment Hermès dans le luxe qui se refait une petite santé, plus 4,3%, 1992€. Mais la plus forte hausse, elle est pour Saint-Gobain, plus 4,4% à 84,52€. Alors les baisses rapidement sur le CAC sont des valeurs plus traditionnelles, plus défensives. Engie qui recule de 2,23% à 15,57€. Vous voyez Unibail, Rodamco, Westfield, quasiment 2% de baisse. Orange aussi en baisse. Mais tout ça, ça nous donne un CAC 40 vraiment forte, forte hausse, belle santé, plus 2,29€, 7615 points. L'euro 1,1151.
Merci beaucoup Antoine. On regarde Wall Street évidemment. Bon, on doit respirer là aussi sur le marché américain.
Oula, oui.
Le Dow Jones, ah, oui, plus 1,15%.
Record, 41 000. Record historique pour le Dow Jones et pour le S&P 500.
Ça n'en fait jamais qu'un. 41 981 pour le Dow Jones. Le Nasdaq, on va le voir dans un instant, car lui qui s'envole, plus 2,6%, 18 028 points, tout ça. À la mi-séance, 18h09, c'est donc Thierry Hulot, le patron du LEM et PDG de Merck France, qui est l'invité d'Edwige Chevrillon. La grande interview arrive dans un instant, à tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Thierry Hulot, il est président du LEM. Le LEM, vous le savez, c'est toute l'industrie pharmaceutique, c'est 270 entreprises adhérentes, c'est à peu près 70 milliards de chiffre d'affaires représentés, 271 sites de production. Thierry Hulot, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là, beaucoup de questions à vous poser. Ce matin, vous avez présenté un peu votre plan au nom de l'industrie pharmaceutique, parce que vous inquiétez, parce qu'on parle beaucoup du budget 2025, mais vous, vous avez besoin d'un PLFSS, du plan de financement de la sécurité sociale, et normalement c'est aussi dans 15 jours, et vous n'avez toujours pas de ministre. Juste un point, comment faites-vous pour retrouver le Nord, alors que vous avez connu 8 ministres en 7 ans, et même encore pire, en 2 ans, il y a eu 6 ministres de la Santé, puis il y en a un 7e là, qui va sortir du chapeau, ou une ministre de la Santé. C'est ingérable, non ?
Alors, une des forces de la France, c'est son administration, qui assure une continuité de l'État. Alors, continuité de l'État, ben, c'est pas de changement, c'est pas de réforme, mais au moins, tout ne s'arrête pas. Et puis, on peut travailler avec l'administration, ce qu'on a fait tout l'été, à préparer les dossiers, à dialoguer, à échanger. On n'est pas toujours d'accord, mais je veux dire, le travail continue. Ce qui manque aujourd'hui, c'est l'arbitrage politique.
Oui, ben bien sûr. Oui. Et tout ce que vous avez prévu avant, ben forcément, a sauté, non ?
Alors, a éventuellement ralenti. Certains grands projets étaient sur les rails et se poursuivent, mais les idées de réforme de fond, comment réformer le financement, la régulation du médicament, c'est juste à l'arrêt. Et il y a urgence à redémarrer pour les Français. Nous, on est là pour quand un patient a besoin de son traitement, il l'est. Et il faut réformer ce système. De nombreuses analyses l'ont montré. Il y a un rapport du Conseil d'État de la semaine dernière qui montre que cette industrie fait face à des injonctions contradictoires.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, il faut dire aussi que de votre côté, pas toujours simple. On va parler, Thierry Hulot, de date de péremption. On va parler de médicaments qu'on pourrait avoir sans forcément avoir une ordonnance. On va parler aussi d'une campagne que vous avez lancée de date de péremption, donc je le disais, et de pénurie. D'abord, une question. Mieux vaut prévenir que guérir. Hein, c'est une phrase, c'est votre slogan. Ce matin, vous avez annoncé un milliard d'économies, puisqu'on cherche à faire des économies. Vous avez dit, banco, nous, l'industrie pharmaceutique, on est prêt à vous présenter un plan d'un milliard dans le cadre de ce PLFSS qui va être négocié dans les 15 jours. Ça consiste en quoi ?
Alors, c'est très simple. Pour garantir l'accès des patients français à leur traitement, il faut que nos entreprises elles aient de l'air pour respirer, de l'air pour investir, de l'air pour employer. On voit bien les finances de l'État aujourd'hui. On ne peut pas tous aller demander plus, plus, plus. Donc on a réfléchi, est-ce qu'on peut optimiser l'économie du médicament ? Et cette économie permettra de baisser les taxes sur le médicament, car nous sommes taxés à plus de 66% sur nos résultats, et nous avons les prix des médicaments parmi les plus bas d'Europe, en moyenne 10% de moins que les grands pays européens. Donc c'est la double peine. Et ce qu'on dit, on peut faire différemment et ça permettra de réduire les taxes sur le médicament, donc de donner de l'air à nos entreprises sans gréver plus le budget de l'État. C'est inédit. Oui. Je crois qu'aucune organisation professionnelle n'a jamais fait cela. Alors comment ? Trois mesures assez simples. on va continuer de promouvoir le bon usage. Le bon usage, c'est on prend le bon médicament au bon moment, rien de plus, rien de moins. On a fait une campagne au mois de juin qui se poursuit ces jours-ci sur comment réduire le nombre de médicaments chez la personne âgée de plus de 65 ans, car au-delà de 5 médicaments, ça ne sert plus à grand-chose.
Bah oui, mais ça, faut le dire aux médecins. Enfin, je veux dire, c'est nous, les patients, on nous donne un tas de médicaments, voilà. Donc bon.
Alors, il faut le dire aux patients, qu'il en soit conscient, comme ça, il peut entamer le dialogue avec son médecin. Il faut informer les médecins. On a financé de manière par un don un éditeur de logiciels pour qu'un médecin qui prescrive plus de 5 médicaments ait un pop-up qui crée une alerte. Et ce qui est très intéressant, j'ai eu ce matin les premiers résultats. Ce logiciel est disponible depuis début août.
Ouais.
En un mois, il a été téléchargé par un médecin généraliste sur 4. Donc il y a bien une prise de conscience des professionnels de santé. Et sur le 1,5 million d'ordonnances, le pop-up est apparu 250 000 fois.
Oui, mais une sanction derrière, il y a quoi ?
Mais l'idée, ce n'est pas de la sanction.
Bah, oui.
C'est le dialogue avec le patient, de se dire, est-ce que tout est vraiment nécessaire ? Est-ce qu'on peut faire différemment ? C'est rentrer dans cette démarche de, quelque part, sobriété, le bon médicament au bon moment. Et tout ce qu'on ne consommera pas un peu par excès, mais permettra de diminuer les pénuries, de diminuer les coûts sur notre système de santé et d'assurer que le pays de Pasteur reste le pays de la carte verte, de l'accès aux soins pour tous.
Oui, mais c'est, enfin, en même temps, vous nous renvoyez aussi un peu sur nos patients. Je suis d'accord qu'on est conscient, mais vous voyez, vous prenez un cas, je vais prendre mon cas, allergie à la clim, à la poussière, otite, rhume comme tout le monde. Vous allez voir un médecin, notre médecin, vous vous retrouvez avec 10 médicaments en une journée, quoi. Donc, et c'est pas moi qui le demande, moi je dis, mais attendez, j'ai trop de choses, je fais des émissions, c'est difficile. Hop, c'est pas grave.
Ce qu'il faut encourager, c'est ce dialogue, de se dire, est-ce que tout est nécessaire ? Dans certains cas, tout est nécessaire, il n'y a pas débat, mais c'est se poser la question.
Mais c'est au médecin, non ? Au pharmacien.
Je vous le dis, on le voit sur les premiers résultats.
Ça marche.
Ça marche.
Et ça peut faire combien d'économies ? Parce qu'alors, on va faire votre milliard d'économies.
Alors, 300 millions.
D'accord, ok.
300 millions.
Alors, déjà, il en reste 700.
Il en reste 700. 300 autres en simplifiant la vie de tout le monde. Vous parlez d'allergies. Il y a des rhinites allergiques,
oui,
qui nécessitent souvent d'aller voir le médecin pour avoir son traitement, avoir une ordonnance. On propose de simplifier, de faire ce qu'on fait d'autres pays européens. Et pour des molécules bien connues, bien encadrées, vous en discutez avec votre pharmacien.
Absolument,
et vous,
ouais,
avez le traitement tout de suite.
Ouais.
Dans ce cas-là, vous ne serez pas remboursé, mais vous aurez le traitement tout de suite. Et de temps en temps, dans les cas de rhinite, on se dit, ben, pour quelques euros, je préfère les mettre et être soigné demain, ce soir, que d'attendre quelques jours.
Mais il y a une question de pouvoir d'achat pour les Français à ce moment-là,
mais
non ?
Ouais. Il s'agit de priver personne de l'accès aux soins. Mmh. C'est ça la démocratie sanitaire.
Oui.
Pour ceux qui diraient non, financièrement, je ne peux pas, ils pourront toujours aller voir leur médecin et avoir leur ordonnance. De là, on peut atteindre 300 millions d'euros d'économies en année pleine.
Alors.
Et puis la dernière mesure,
oui,
la dernière mesure, c'est entre le prix officiel d'un médicament et le prix réel, il y a une différence qu'on appelle la remise, qui est un montant, entre guillemets, secret, que l'industrie verse à l'assurance maladie. Le montant des remises pour cette année va être de l'ordre de 8 milliards d'euros. À cela, vous ajoutez la taxe sur la clause de sauvegarde,
oui,
et vous avez à peu près dans les entreprises 10 milliards d'euros de trésorerie qu'on ne verse à l'État qu'avec en moyenne 18 mois de retard. Vu l'état de nos finances publiques, vous imaginez si le 1er janvier, on faisait un chèque au ministère des Finances en disant les remises, on vous paye tout de suite tout ce qu'on vous doit, on n'attend pas les 18 mois, 10 milliards cash de dette en moins, et ensuite, au lieu d'attendre 18 mois, pour l'avenir, on va vous les payer au mois, le mois, au trimestre.
Et en échange, vous demandez quoi ?
Que tout ça permette de réduire la clause de sauvegarde qui est cette taxe sur,
oui,
l'industrie pharmaceutique. Donc,
oui,
nos mesures, et c'est inédit, c'est proposer de faire différemment pour donner de l'air à tout le monde.
Oui, oui, mais en même temps, si vous voulez diminuer cette clause de sauvegarde, en un mot, vous pouvez peut-être expliquer la clause de sauvegarde ?
Alors,
c'est très compliqué dès qu'on parle de sécu et de médicaments.
C'est technique.
Et pourtant, ça nous concerne.
La clause de sauvegarde. Le Parlement vote un budget pour le médicament remboursé. Si ce budget est dépassé, l'industrie pharmaceutique en rend 70%.
Mmh.
Dans les années précédentes, en 2015, le budget, il était calculé pas mal et on tombait à peu près sur la consommation. Ces dernières années, le budget qui est voté, il est inférieur à la consommation de médicaments de l'année d'avant.
Mmh.
Donc on sait au 1er janvier qu'on va payer de l'impôt et c'est devenu totalement hors de contrôle. Cette taxe qui n'existait pas il y a quelques années en arrière
il faut refaire.
Coûte aujourd'hui 1,6 milliard.
D'accord.
Okay. Nous, ce qu'on propose avec notre plan d'économie, c'est de la ramener à 1 milliard l'an prochain, 750 millions l'année d'après, 500 millions d'ici 2027. Et là, en entreprise responsable des finances publiques, on propose une économie différente du médicament pour y arriver. Dans notre jardin, on ne dit pas aller prendre à l'hôpital, aller prendre à quelqu'un d'autre. On regarde chez nous comment faire différemment.
Thierry Hulot, ça c'est très intéressant. Il y a aussi, on reviendra sur la question des dates de péremption, mais c'est la question de pénurie de médicaments. Est-ce que vous avez le sentiment que il y a des mesures qui ont été prises, mais enfin qui n'ont jamais été adoptées, parce que finalement il y a des changements de gouvernement, là on en a parlé tout à l'heure. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui est concrètement?
Alors, concrètement, les entreprises du médicament avaient proposé un plan d'action il y a maintenant 18 mois en arrière. Mmh. En février-mars dernier, la ministre Vautrin a fait un plan pénurie 2024-2027 qui reprenait à peu près 80% de nos propositions d'une année avant.
Oui.
C'est bien, maintenant il faut que ça se mette en musique et qu'on n'ait pas des stop and go.
C'est ça.
Et
ouais.
Ça nécessite un arbitrage politique. Il y a une bonne nouvelle, c'est qu'il y a une alliance européenne qui est en train de se créer au niveau de la Commission européenne pour lutter contre les pénuries au niveau européen avec une liste européenne de médicaments critiques et un plan d'action détaillé. C'est une très bonne nouvelle. Là aussi, il faut s'assurer que ce soit mis en œuvre. Nous, entreprises du médicament, on est là pour que quand vous ayez besoin d'un traitement, il soit disponible.
Oui, mais enfin, vous savez bien, le Doliprane, tout ça, vous savez bien que ça n'a pas été le cas.
On n'y est pas encore.
La Ventoline, là encore, en ce moment, impossible à trouver.
On n'y est pas encore. On progresse. Les systèmes d'alerte, les systèmes de tension qui sont mis en place permettent de mettre les différents interlocuteurs autour de la table, de trouver des solutions. Mmh. Et les derniers chiffres publiés par l'Agence du médicament montrent que le dialogue fluidifie le système, fait que le nombre de pénuries réelles n'augmente pas, a même légèrement diminué.
Aujourd'hui?
Par contre, je n'ai plus le chiffre exact en tête, c'est équivalent à l'an dernier. Par contre, le nombre d'alertes a augmenté, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que chaque labo joue le jeu et prévient quand il y a un risque.
Après, il y a autre chose, c'est l'accès aux médicaments, aux nouveaux médicaments. On voit, parce que vous êtes le patron de Merck en France, vous me disiez tout à l'heure, Merck, ben, vous êtes spécialisé dans les anticancéreux, aussi l'autre maladie très grave,
la
sclérose en plaques, voilà. Voilà, donc... on fait d'énormes progrès, notamment grâce à l'immunologie. On sait qu'il y a des nouveaux traitements, mais ils coûtent beaucoup trop cher. Donc, on peut les avoir ailleurs, mais pas en France.
Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Sur les médicaments de rupture, les médicaments qui transforment une prise en charge de pathologie, a été mis en place en France un système dit d'accès précoce, il y a à peu près 3 ans, qui a permis de prendre en charge à peu près 100 000 nouveaux patients qui étaient en impasse thérapeutique. Donc ça, c'est un véritable progrès.
Oui.
Ça reste marginal parce que c'est pour des innovations de rupture. Mais il y a aussi toutes les innovations que j'appelle du quotidien, qui font que votre traitement est
plus facile à prendre. Oui, mais l'immunologie, par exemple, pour vous, c'est une innovation de rupture.
Alors, c'est une innovation de rupture.
Oui, mais pourquoi les nouveaux traitements, on n'y a pas accès parce que ça coûte trop cher en France?
Alors, qu'est-ce qu'on voit? Quand on regarde...
Vous êtes d'accord avec moi, non?
Alors, on n'a pas... on ne peut pas dire qu'on n'a pas accès aux nouveaux traitements en France. Il y a certains traitements qui n'arrivent pas en France.
Oui,
et par rapport à ce qui est approuvé à la communauté européenne, il y en a un tiers qui n'arrive jamais sur le marché français.
Oui.
Et là, il faut simplifier les procédures. Il faut...
Et c'est de la faute à qui? Au laboratoire ou alors à l'administration française?
Il y a plusieurs choses. C'est la commission de transparence, la haute autorité de santé, évalue si le médicament approuvé est... à des preuves scientifiques suffisamment fortes pour être pris en charge par la solidarité nationale. Ça prend un certain temps. Ouais. Puis ensuite, il faut négocier un prix.
Oui, c'est ça, le prix. Et c'est là où les laboratoires disent « le prix qu'on négocie en France, il n'est pas intéressant pour nous. On préfère aller ailleurs. »
Par moment, il y a une situation de blocage parce qu'on a en France des prix plus bas que dans les principaux pays européens.
Ouais.
Et puis, juste un peu pour l'anecdote, même de temps en temps, quand on est d'accord, on prend encore 2 à 3 mois pour pouvoir commencer à commercialiser le médicament parce que signer l'accord de prix... prend 20 signatures au ministère de la Santé.
Mais donc quand même, en fait, le point important, c'est que les prix sont bas, très bas. Vous avez même commencé votre interview là-dessus, Thierry Hulot, en disant que les prix sont très bas en France. Et donc c'est quand même un problème, parce qu'on est dans un monde capitaliste, enfin c'est une industrie.
Si vos prix sont bas, vous ne pouvez pas investir, vous ne pouvez pas amortir vos efforts de recherche,
alors,
vous ne pouvez pas réindustrialiser.
Je voudrais qu'on parle, il nous reste 2 sujets importants, donc on a peu de temps. Crédit à vos recherches. le sujet qui fâche. Parce que vous avez vu, il y a Sophie Binet, vous voyez, qui est la leader de la CGT, qui a dit à propos de Sanofi, qui est en train de vendre sa branche grand public, qui dit, mais attendez, 1 milliard de crédit impôt recherche pour Sanofi, alors qu'ils sont en train de vendre à des étrangers leur branche grand public de Liprane, en plus dont on a eu, puisqu'on a parlé, on a eu un problème de pénurie. Donc il faut limiter ce crédit impôt recherche. Il faut faire du donnant-donnant.
Mais qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Parce que par moments, certains...
on veut faire des économies, vous-même vous faites des économies.
On veut être leader en innovation, en recherche, on veut réindustrialiser, on veut garder nos ingénieurs, on veut garder nos PhD. On a eu il y a quelques années la mise en place du crédit d'impôt pour recherche, qui était une idée tellement mauvaise que tous les pays européens nous l'ont piqué.
Oui.
Et maintenant, nous on se dit, on va arrêter.
Et on a l'idée on que va ce arrêter crédit, pourquoi c'est un cadeau. Que quand les chercheurs, quand Sanofi met sa recherche en dehors de France. Donc là, on se dit, pourquoi le faire?
Ce crédit n'est pas un cadeau.
Oui.
Pour obtenir un crédit d'impôt recherche, il faut un projet dit de recherche qui est contrôlé, qui est validé, qui nécessite d'investir en France, d'embaucher en France. Il y a une véritable contrepartie. Donc, ne mélangeons pas tout.
Mais c'est quoi la contrepartie, par exemple, pour Sanofi? Vous voyez, ça tombe bien, ça correspond pas à Merck. C'est quoi la contrepartie?
Il faudrait demander à Sanofi directement. Mais la contrepartie, je peux vous le dire, quand ça a concerné Merck, vous dites, je vais faire tel essai de recherche clinique en France, en partenariat avec tels hôpitaux, dans telle durée. Voilà les critères qu'on attend.
Oui, mais vous voyez bien
c'est pas un cadeau. C'est...
Non, mais puisque vous représentez, c'est d'accord qu'en tant que Merck, vous ne pouvez pas répondre sur Sanofi, mais en tant que président, justement, de toutes les entreprises de santé, il y a un problème de recherche en France. Il faudrait que la recherche, elle reste en France, que les sites de production, ils restent en France, et que les entreprises reste française, non, ou pas?
Ben, tout ce que vous venez de dire, si on coupe les crédits d'accompagnement, si on ne considère pas que cette industrie est stratégique
pour la France, ça c'est clair, tout le monde est d'accord là-dessus.
Donc, si l'industrie est stratégique, on la soutient, on l'accompagne.
Oui.
C'est ce qu'on a fait dans les autres industries.
Oui.
Et on ne complexifie pas à chaque étage et on n'asphyxie pas de taxes. C'est l'injonction contradictoire, très bien rapportée dans le dernier rapport du Conseil d'État de la semaine dernière.
D'accord. Donc vous dites non, pas touche au crédit impôt recherche.
Non, continuons à innover et de faire de la France une terre de recherche, d'innovation au service de nos concitoyens.
Mais est-ce que vous comprenez que ça, quand même, ça soit un sujet, cette vente de la division grand public de Sanofi?
Chaque entreprise, comme vous l'avez dit, est une entreprise privée. Avec des investisseurs qui, à un moment, font des choix stratégiques.
Mais avec beaucoup de subventions.
Faisons de la France un territoire attractif. Et la question ne se posera plus.
Oui. Donc, ça veut dire que le territoire, il n'est pas attractif.
Pas assez. Et on le voit dans le bilan à 360, la photographie que nous avons publiée au mois de juin dernier, qui montre que dans le podium européen, la France, en termes d'attractivité pharmaceutique, se déclasse.
Oui,
relisons le rapport très récent du commissaire européen Mario Draghi, qui a remis un rapport sur l'attractivité de l'Europe, qui décrit très bien le phénomène. Il est urgent d'agir et d'avoir une politique de santé dans la durée.
Thierry Hulot, en 20 secondes, vous avez lu Que choisir ? Que choisir ? Il y avait une enquête assez intéressante, du reste, sur cette fameuse date de péremption, en disant, mais finalement, ils ont trouvé des médicaments, je ne sais pas, qui avaient 30 ans, 25 ans, ils sont tout aussi efficaces que ceux qui ont un an ou 2 ans.
Alors,
votre réponse est quoi?
Oui et non. L'approche est très intéressante parce qu'il faut tous qu'on aille vers plus de sobriété pour protéger notre planète et la sauver. Oui. Ensuite, c'est toujours aussi efficace parce que ce qui montre, j'ai lu l'article, c'est qu'il reste encore 80% du principe actif. La question, c'est, et les 20% qui ne sont plus du principe actif, c'est devenu des produits de dégradation. Est-ce qu'on est sûr qu'ils ne sont pas toxiques, qu'ils ne sont pas potentiellement cancérigènes, qu'ils sont à une dose acceptable? Donc ça nécessite de se mettre autour de la table avec l'agence, de faire des études scientifiques si besoin, et de se dire, est-ce que pour cette molécule-là, en toute sécurité, on peut augmenter la date de péremption? Nous serons au rendez-vous de ce débat-là, car il va dans le bon sens.
Vous serez autour de la table. Merci de cette info, en tous les cas. Merci beaucoup d'avoir été autour de la table de BFM Business. Thierry Hulot, donc, le patron des entreprises de santé du LEM, était notre invité, il veut faire 1 milliard d'économies, vous allez savoir à quelle sauce vous allez être mangé. C'est pour bientôt.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts BFM.
Allez, 18h35, où est les experts BFM sont là, la première partie des experts jusqu'à 19h en direct sur BFM Business. Edwige Chevrillon est de nouveau avec nous, rebonsoir.
Bonsoir avec le bon micro, c'est bon.
Oui, c'est le bon. Emmanuel Le Chypre est avec nous, Emmanuel, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue également. Alors, on a beaucoup de choses, ce gouvernement ou pas, donc la réunion de la dernière chance avec Michel Barnier qui a duré... 1h45 à peu près, voilà. Michel Barnier qui va être reçu à l'Élysée tout à l'heure par Emmanuel Macron, annonce ce soir, demain, samedi, dimanche, lundi prochain. On va en parler dans un instant, juste parce que, pour rebondir sur ce que disait Cyrillo, le patron du LEM, c'est un monsieur qui va être reçu sans doute par Michel Barnier, soit le ministre de la Santé, parce qu'il a des idées d'économie. Oui. Et ça, on prend forcément.
Oui, ça, c'est assez rare en tous les cas. Oui. Quelqu'un, il propose en tous les cas, enfin, toutes les industries de la pharmacie, des labos, il propose 1 milliard d'économies. Donc, c'est déjà pas mal, hein, je trouve, en l'occurrence. Donc, 1 milliard d'économies, alors, sur les médicaments qu'on peut obtenir sans ordonnance, on ne va pas rentrer trop dans le détail, la clause de sauvegarde, etc. Mais, en tous les cas, je trouve que c'est la démarche, je la trouve intéressante. C'est-à-dire que, alors après, c'est un donnant-donnant, ils veulent négocier forcément autre chose. Mais, j'ai trouvé que c'est une démarche qu'il faut signaler parce que c'est la première fois qu'on voit un truc pareil.
C'est ce qui m'a frappé, c'est ce qu'il disait. Alors vous disiez, il a vu passer je ne sais combien de ministres de la santé.
Ah oui, alors j'ai noté ça. Il y a 8 ministres en 9 ans, en 7 ans, pardon, et 6 en 2 ans.
Non mais c'est incroyable. Alors, 6 ministres de la santé en 2 ans.
Donc on peut rien faire.
Sur fond d'affaiblissement de la compétitivité de notre industrie pharmaceutique, de la recherche de notre industrie pharmaceutique, ça a été beaucoup documenté. La France a perdu du terrain en la matière depuis 10-15 ans.
C'est-à-dire que
la France en matière pharmaceutique n'est plus qu'un pays de deuxième division.
Non, pas du tout. Non, vous exagérez. On est numéro 5 ou 6. Attendez, je vais vous retrouver le chiffre exact.
Non. Ah, vous appelez ça la première division, être 5 ou 6 hein.
On est numéro 2 au niveau européen.
Ah, regardez sur l'innovation, regardez sur tout ça, on est quand même extrêmement distancé.
Et ce qui est terrible, c'est que vous le faisiez remarquer, effectivement, il n'y a pas de PLFSS, donc les labos ne peuvent pas fixer leurs prix, on est complètement dans l'impasse.
Ah non, mais surtout, c'est qu'il y a des décisions qui avaient été prises avant.
Oui.
Notamment par Catherine Vautrin, qui devrait a priori faire partie de ce futur gouvernement. Oh. Mais simplement, pour l'instant, ça reste en l'air. Là où il a raison, c'est de dire que l'administration, notamment de la santé, est quand même une bonne administration.
Résiliente, on va dire.
Résiliente, et que du coup, ils arrivent à discuter, ils sont quasiment prêts quoi, sur le PLFSF.
Bien, on verra ce qu'il deviendra.
Deuxième rang européen, Emmanuel Le Chypre. On essaie clinique.
On n'est pas à la CAF non plus.
Oui, mais on essaie clinique. C'est pas l'alpha et l'oméga de.
Et sixième place de la France en Europe dans la production de médicaments. Bon. C'est vrai qu'avant, on était largement sur le podium.
Non, mais c'est surtout Edwige qu'avant, on était un pays qui développait, qui innovait et qui inventait. Et si on regarde sur ce segment de la recherche et de l'innovation, on a perdu beaucoup de terrain.
Ah oui, mais parce que c'est sûr que cette politique de prix bas
absolument
a pesé énormément sur la compétitivité des entreprises. Et ça se voit sur les nouveaux médicaments qu'on ne peut pas trouver en France. Pardon.
Bien. Ah bah, ça allait faire un tour à la pharmacie tous les jours, évidemment.
Voilà.
Été complets.
Absolument, tout à fait. Exhaustif et complet. Alors, sur le gouvernement, on ne va pas être exhaustif et complet, vu que pour l'instant, on n'a que des pistes.
Ouais, Edwige, c'est tout déjà.
Michel,
c'est
bah, on m'a envoyé des listes, mais on ne va pas les donner.
On ne va pas commencer là, parce que ça va être démenti.
Non, la course de petits chevaux, c'est
non,
pas
la question, c'est alors qui sera ministre, que fera le gouvernement, et surtout ce que décidera le prochain gouvernement sur les hausses d'impôts, parce que c'est le sujet qui a divisé, bien sûr, dans le cadre de la formation de ce gouvernement. Et on va en parler, parce qu'il est avec nous en ligne, et on le remercie. Merci, c'est Bernard Cohen-Haddad, le président de la CPME Paris-Île-de-France, qui est avec nous. Bonsoir Bernard Cohen-Haddad, merci.
Bonsoir,
beaucoup. Merci d'être avec nous, parce qu'on voulait avoir votre ressenti sur tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend depuis quelques heures, les pistes d'économie et les pistes de hausse d'impôts qui pourraient être réclamées aux entreprises. Je mets tout sur la table en 30 secondes, Bernard, et vous me dites ce que ça vous inspire.
Oui,
on entend quoi?
Pour ne pas être trop long, c'est que nous, ce qu'on attend dans les entreprises, surtout dans les territoires, c'est qu'on n'arrête pas la politique de l'offre. Alors, on sait bien qu'il va falloir raboter un certain nombre de niches, qu'il va falloir faire des économies. C'est un peu dommage de sacrifier l'apprentissage.
Vous avez l'air d'en savoir des choses.
J'en sais pas, mais je lis la presse et je vous écoute. Emmanuel Le Chypre et Louis Chevillon, donc moi je vous écoute. Je sais qu'il va falloir faire des économies. Donc
je vous fais...
nous, on est plutôt pour faire des dépenses, pour accompagner les entreprises à se développer. Mais on sait que ce rêve-là est terminé.
Je fais l'inventaire en 30 secondes, Bernard, et je vous écoute après. Qu'est-ce qu'on lit ? Donc, extinction définitive de la CVE d'ici 2027, ça, terminé. Hausse exceptionnelle et temporaire de l'impôt sur les sociétés pour les grandes entreprises, point d'interrogation. Certaines aides aux entreprises, effectivement, qui seraient rabotées, aide à l'apprentissage, je vous le disais, pour les grandes entreprises. Toilettage du crédit impôt recherche. Et puis l'idée de tailler dans les exonérations de charges dont bénéficient les entreprises qui coûtent 75 milliards d'euros par an à l'État. On a vu les mêmes choses, visiblement. Si on va sur ces pistes-là, qu'est-ce que vous dites ce soir, Bernard Cohen-Haddad ?
Moi, je me dis que c'est un peu dommage de ne pas aller un peu plus loin en limitant aussi les délais de paiement. Vous savez, on a quand même 16 milliards d'euros qu'on aimerait bien récupérer dans la trésorerie de nos TPE-PME. J'aimerais bien qu'on maintienne aussi le choc de simplification, cette loi Pacte 2 qu'on ne verra sans doute pas. C'est peut-être des choses qui coûtent pas cher, mais qui permettent de gagner en productivité dans nos entreprises et donc de faire pour nous des efforts sur nos marges. Et ça nous permettrait aussi d'avoir une dynamique sans demander à chaque fois qu'on ouvre le robinet des aides. Donc attention quand même de ne pas sacrifier les PME à l'autel d'une rentabilité qui sera demain une catastrophe en matière d'emploi, de dynamique dans les territoires.
Bon, il y a l'idée, ce qu'on lit dans la presse aussi, c'est aller une surtaxe d'IS, parce que c'est un scénario qui circule apparemment, surtaxe d'IS temporaire, exceptionnel, avec l'idée, je disais ça dans la presse aussi ce matin, que si on réclame quelques milliards d'euros aux grandes entreprises, tout du moins aux grandes entreprises, personne pleurera et descendra dans la rue finalement. Ça
peut oui, être... mais Guillaume Paul, attention, vous savez, tirer sur les grandes entreprises qui sont aujourd'hui aussi porteurs d'innovation, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait mieux exporter que filialiser pour nos grandes entreprises. Je l'avais écrit dans un grand journal du soir et on marque toujours le pas, y compris en matière de notre balance du commerce extérieur. Encourageons les entreprises. Sans aucun doute, il faut faire des économies. Sans aucun doute, il faut aller là où jusqu'à présent d'impôts n'ont pas permis d'avoir une réalisation suffisante d'effets positifs à la fois sur l'emploi, sur l'économie de proximité, sur la balance commerciale. Mais ne sacrifions pas, à l'hôtel des économies, une dynamique qui aujourd'hui est nécessaire pour faire face à la concurrence internationale.
Alors, Edwige, j'ai une question à vous poser, Bernard. Oui, Edwige.
Moi, ma question, je me dis, si vous ne voulez pas qu'on fasse des économies sur les entreprises, est-ce que vous voulez, je ne sais pas, que ça fasse à ce moment-là qu'on essaie de trouver de l'argent en augmentant les impôts des particuliers? Qu'est-ce que... Il faut bien trouver des économies.
Oui,
est-ce qu'on peut faire pendant un an, en 2025, on est dans une situation de crise d'urgence, on va faire la réforme de l'État, enfin, espérons qu'un jour de notre vivant, elle sera fait, on est bien d'accord là-dessus, il faut faire des économies, mais là, il faut trouver un petit peu d'argent, enfin, au moins pour boucler ce budget.
Oui, mais faisons des économies, Edwige, sur le train de vie de l'État, sur le train de vie des collectivités territoriales, sur le train de vie aussi d'un certain nombre de grandes entreprises publiques, et arrêtons de voir que ce sont les petites entreprises, les TPE-PME,
les indépendants,
voire les ETI, qui doivent faire des sacrifices tout le temps.
Oui, non, mais je suis d'accord, mais c'est les grandes entreprises, on peut peut-être pas, je sais pas, ponctionner un petit peu d'argent momentanément, le problème c'est le momentanément.
Oui, mais Bernard,
je vous l'accorde.
Bernard va vous répondre, attention.
À des grandes entreprises.
Attention aux provisoires qui durent, voilà, c'est aussi quelque chose qu'on répète.
Oui, attention aux provisoires en fonctionnant
les entreprises. Donc on n'a pas de solution.
Pour faire en sorte que l'on augmente certains prix, donc on va encore avoir un problème de pouvoir d'achat et une difficulté dans les territoires. Vous savez mieux que quiconque, Edwige, 27% de TPE-PME en défaillance supplémentaire sur les 12 derniers mois.
Mais on parle pas des TPE et des PME, mais on parle pas des TPE et des PME, justement, on parle des grandes entreprises.
Écoutez, on verra ce qui sera annoncé. Vous savez, moi je reste dans le train de je ne crois que ce que je vois et encore pas tout.
Emmanuel Le Chypre, cet inventaire à la Prévert que je faisais il y a quelques minutes, est-ce qu'il y a des choses pour vous qui peuvent être sensées, qui peuvent faire sens, aller exceptionnellement, temporairement, voilà, après on met ce qu'on veut derrière le terme.
Non, mais ça, c'est les discussions qu'on a quasiment tous les ans,
tous les jours, même depuis quelques temps.
Degré d'intensité supplémentaire et qui nous ont conduit dans la situation catastrophique dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, la réalité, c'est que tout ça commence extrêmement mal. Tout ça commence extrêmement mal parce que d'abord, sauf si Edwige a tout faux dans le casting secret du gouvernement qu'elle connaît, mais il n'y aura aucun effet Il n'y aura aucun effet de surprise positif, il n'y aura aucun effet d'entraînement, aucun effet d'enthousiasme. Donc ça, un nouveau gouvernement qui ne suscite aucun élan, c'est quand même extrêmement problématique.
C'est un peu prématuré pour dire ça, quand même.
On verra bien, mais compte tenu de ce qu'on sait déjà, ça va être extrêmement compliqué. Deux, la façon dont on aborde le problème, c'est la pire des façons. C'est-à-dire que, un, on brandit des menaces comme ça, entre guillemets, sans trop savoir. On a des tas de propositions qui sont anxiogènes, qui, mises bout à bout, n'ont aucune cohérence, c'est-à-dire qui ne dessinent aucune perspective, aucune trajectoire de sortie de crise pour les Français. En plus, ce qui est une erreur magistrale, à mon avis, c'est que augmenter les impôts, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est certainement pas une preuve de courage politique, c'est au contraire une preuve de faiblesse.
Non, mais la
c'est parce qu'on n'est pas capable de faire autre chose. Pour terminer, Edwige, on n'a pas non plus de vision de la compétitivité, parce que si on avait une vision de la compétitivité et qu'on comparait la structure de la fiscalité en France par rapport à ce qu'elle est chez nos grands voisins, on verrait que les entreprises payent démesurément des impôts en France par rapport aux autres grands voisins et que c'est quand même une des raisons de l'industrialisation et du chômage de masse qui a duré des années et que les ménages n'en payent pas tant que ça, notamment les ménages les plus aisés et notamment les retraités. Si vous regardez en matière de ce qu'on paye, si vous cumulez impôts sur le revenu et cotisations sociales, voilà. Bon. Donc, si à aucun moment on ne commence par avoir une vision, c'est foutu. Et moi, ce que
mais
je pense...
Mais vous n'êtes plus au stade où on peut avoir une vision, mais vous avez bien compris.
Il faut bien comprendre que faire tout ce qui n'a jamais marché jusqu'à maintenant et le refaire en pensant que ça va produire des résultats différents, aurait dit Einstein, c'est de la folie. Donc moi, j'aurais dit, laissons filer les déficits un an ou deux, on s'en fout. Mais mettons en place une vraie stratégie de redressement des finances publiques et de modernisation de l'État, et on verra après. Mais vouloir, là, envoyer des petits signaux rassurants, c'est pire que mieux.
Non,
mais
deux choses, il y a un côté politique. Non, mais en même temps, là, on est dans une situation, je sais bien qu'à chaque fois, on est dans une situation d'urgence. Là, il faut boucler, j'ai envie de dire, ce putain de budget 2025. Il faut qu'on y arrive à boucler ce budget 2025. Alors après, on peut laisser filer encore plus les finances publiques. Mais il y a un moment, il faut peut-être qu'on arrête quand même.
Ça ne veut surtout pas dire.
Donc, on peut trouver quelque chose.
Oui,
mais il faut trouver des mesures qui soient rapides. Voilà. Donc, la réforme de l'État, on est tous d'accord.
Encore une fois,
le fait que c'est un taux d'imposition trop élevé, on est d'accord.
Voilà. Donc, oui.
Bougez pas, Bernard.
Si tout ça aboutit à quelques rationalisations de dépenses qui sont effectivement peut-être inutiles, oui, on peut sans doute raboter l'apprentissage. Oui, on peut raboter un peu le crédit impôt recherche. Mais pensez aussi aux signaux que tout ça envoie.
Non, mais
ces gens-là, quand même. Les Barnier, même François Villeroy de Gallo, hier, ils emploient des mots qui sont terriblement anxiogènes. Ils manipulent de la nitroglycérine. Comme des enfants manipulent de l'eau.
Oui, mais il y a un moment qu'il faut quand même.
Mais non,
ils expliquent quand même qu'il faut
arriver à boucler
si
ce budget.
Si vous dites qu'augmenter les impôts sur les multinationales.
Qu'il
ne
faut pas s'acharner à vouloir ramener les déficits à 3% du PIB en 2027, il faut y aller doucement.
Si on dit qu'on augmente les impôts sur les grandes entreprises, donnons-nous 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ouais. Quelle image ça renvoie à l'étranger et sur les marchés financiers? C'est très clair, ça renvoie l'image que finalement, Emmanuel Macron, on y avait un peu cru et que finalement, la France ne change pas. Voilà, c'est ça les images que ça renvoie.
Non, ça dépend, vous pouvez mettre ça, dire pour un an, on peut le faire pour ce budget 2025. Bah. Et au contraire, alors, en revanche, c'est pour Emmanuel Macron, ça veut dire qu'il restera vraiment plus grand-chose de son passage à l'Élysée.
Bernard Cohen-Haddad, allez, est-ce qu'on dit un one-shot 2025, un petit effort pour la bonne cause? Est-ce que le patronat peut s'en accommoder ou pas du tout?
Mais écoutez, on a toujours montré qu'on était là quand il le fallait pour participer à la solidarité nationale. Mais je souscris totalement à ce qui a été dit par Emmanuel de Chypre. C'est extrêmement anxiogène, c'est pas un bon signe, ça prouve qu'on a échoué depuis des années, que finalement, on ne pense pas le monde d'après, on fait comme le monde d'avant, en mettant toujours un peu plus la main au porte-monnaie quand il s'agit de payer des déficits. On n'a pas d'ambition supplémentaire sur la longue durée, y compris pour modifier notre façon de produire, notre façon de travailler, notre façon tout simplement d'investir. On est dans une situation de crise qu'on connaissait l'année précédente et encore l'année d'avant. C'est un échec, malheureusement, d'une certaine façon de la politique, et surtout, c'est un échec de la pensée autrement, et c'est bien ça le danger. Il n'y a pas d'espoir, il y a tout simplement une réponse à un moment donné, à une situation qui devient catastrophique, et un signal extrêmement anxiogène pour tous nos entrepreneurs, y compris pour ceux qui sont de l'autre côté de nos frontières. Moi, je trouve ça finalement assez désolant.
Oui, on est d'accord, ce qu'il y a, c'est qu'en 15 jours, voilà, il faut trouver une solution. Voilà.
Mais 15 jours,
la solution,
court.
La solution, c'est un demi-point de déficit public supplémentaire.
Oui,
c'est
oui,
pas grave.
C'est comme ça que ça va se terminer. Mais, vous mais savez très bien.
Mais, on va laisser finir. Et attaquons les.
Et puis c'est Michel Barnier, parce que c'est Michel Barnier qui est connu à Bruxelles, qui va aller négocier un an, deux ans, trois ans de délai pour.
Non, ça va être fin de ces journées qui va aller négocier.
Oui, parce que non seulement à force de n'appréhender le sujet que par tout un tas de petites mesures qui finalement n'ont pas tellement de cohérence entre elles, on attaque même pas les vrais sujets et les grandes masses. C'est-à-dire qu'il y a quelques sujets qui pourraient être traités dès maintenant.
Après tout, dire, on
vous
rien,
voulez des
on
mesures d'urgence et de vie, j'en ai une qui est très simple, qui est compréhensible par tout le monde, qui demande un effort à tout le monde, vous désindexez toutes les pensions et les prestations sociales.
Okay.
C'est 20 milliards.
Alors, rappelez-moi,
20 milliards sur un an,
rappelez-moi la majorité à l'Assemblée nationale, c'est quoi? Je crois que c'est le PS et les filles qui sont le plus grand nombre.
Sauf que
Bah oui, mais c'est eux qui votent à l'Assemblée nationale. Déjà, vous avez un gouvernement qui est visiblement très à droite. Il y a personne de la gauche, du centre gauche même. Évidemment pas LFI. C'est à l'Assemblée nationale qu'il faut faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, je veux dire, il faut bien contrebalancer.
On négocie. Ah bah c'est la seule qualité de Michel Barnier, c'est pas quelqu'un d'innovant.
Donc si vous avez aucune hausse d'impôts, compliqué à négocier.
La vraie qualité qu'il a, c'est que c'est quelqu'un qui
a négocié avec Boris Johnson.
Négocié.
C'est pour ça que moi je dis, c'est pour aller faire des sourires à Bruxelles.
Plus que pour ses propositions. Oui,
c'est certain. Oui. Bien, merci beaucoup Bernard Conadad. Merci infiniment. Merci d'avoir été avec nous ce soir, le président de la CPME Paris-Île-de-France, avec nous ce soir sur BFM Business. Donc on le disait, Michel Barnier qui sera reçu aux alentours de 19h15 par Emmanuel Macron à l'Élysée. Et puis peut-être, et puis après on rentre dans l'inconnu. On disait demain.
Mais on ne sait rien. La seule chose que j'ai laissé fuiter, c'est ces questions sur la fiscalité. Mais on ne sait rien.
Vous avez des noms.
Moi, j'ai deux, trois noms, mais bon, voilà. On va pas jouer aux petits chevaux, sinon on va encore se fâcher avec Emmanuel.
Et puis, gouvernement, demain ou ce week-end. Alors, on faisait remarquer que ce week-end, vous avez les journées du patrimoine. Donc, ça va être sale con d'aviser.
C'est bien, ça fera du public pour les passations de pouvoir.
Pour Alexis Kohler et pour les passations de pouvoir.
Oui, parce qu'il faut s'inscrire sur le site de l'Élysée. Hein, oui, donc, si comme d'habitude, c'est pris d'assaut.
Non, mais je ferai un monde honorable quand on aura le gouvernement, s'il y a finalement un casting.
Mais il n'y aura pas.
Voilà. Ah bah donc Edwige est d'accord avec moi. Ah oui, mais casting. Bah oui, mais du coup, ça démarre mal.
Voilà. Mais comme vous dites, on va pas jouer aux petits chevaux parce qu'entre ce soir, demain matin,
non, bien sûr,
il peut se passer évidemment beaucoup de choses. Allez, 18h52, vu sur le web comme tous les soirs, on met en avant un article de bfmbusiness.com qui nous a, parmi tant d'autres, émerveillés. C'est Marine Cardo qui est avec nous ce soir. Bonsoir Marine.
Solution au budget 2025.
Bienvenue. Et on va parler crédit immobilier parce qu'on a enfin une banque, Marine, qui s'est lancée. Et qui va proposer un crédit IMO adapté aux clients qui ne sont pas en CDI, oui, qui sont en CDD intérimaire, indépendant ou encore intermittent. C'est ça, Marine?
Exactement. Hein, tous ceux à qui d'habitude on ferme un peu la porte au nez dès qu'ils demandent un crédit. Donc là, c'est le CIC qui propose une offre qui leur est vraiment adressée. Donc c'est pour, vous l'avez dit, les auto-entrepreneurs, les intermittents, les intérimaires, tous ceux qui ne sont pas en CDI et qui représentent quand même 27% de la population active.
Oui.
Et donc, ce qui est intéressant avec cette offre de crédit, c'est qu'elle est adaptée aux gens qui ont des revenus fluctuants. En fait, elle permet d'avoir une certaine souplesse au niveau du remboursement.
Ouais. Et donc, comment ça marche? C'est-à-dire, je peux arrêter de rembourser pendant quelques temps, c'est ça, si je suis un petit peu dans la
difficulté? Vous ne pouvez pas complètement arrêter. Vous ne pouvez pas complètement arrêter de rembourser. Par contre, vous pouvez adapter un petit peu les mensualités. En fait, si vous avez une période de trou, vous avez des revenus qui baissent, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est demander à baisser de maximum 50% vos mensualités pendant 4 mois, ce qui vous permet de retrouver un petit peu de trésorerie. Et ça marche pareil si c'est l'inverse. Si vous avez un mois faste où vous gagnez beaucoup, beaucoup plus, vous pouvez rembourser plus vite votre crédit. Et ça, c'est intéressant pour vous parce qu'en fait, vous allez réduire la durée du crédit et puis réduire son coût mathématiquement. En plus, c'est hyper simple. Ça se passe directement sur l'application CIC. Ouais. Donc, je pense que c'est vraiment une offre qui peut trouver son public parce qu'en fait, les gens qui ne sont pas en CDI, ils ont quand même envie d'acheter.
Donc, c'est un crédit à mensualité variable, en fait.
Oui, vous pouvez changer une fois par an. abaisser ou augmenter vos mensualités une fois par an.
Mais au final, ça coûte plus cher ou pas
Si vous augmentez, si vous abaissez vos mensualités, en effet, ça va vous coûter plus cher.
Ah ouais.
Voilà. C'est vrai. Après, je pense que c'est intéressant pour les gens qui ne sont pas en CDI parce qu'ils sont quand même 70% à vouloir devenir propriétaire. C'est l'IFOP qui nous dit ça. Donc voilà, si c'est votre cas, il faut se renseigner.
C'est la première banque à se lancer sur ce type de vous rendez compte qu'il a fallu attendre 2024 pour que les banques se mettent à niveau, se disent la nouvelle,
parce que
nouvelle
ça forme bien, de normalité. Ça rejoint ce dont on parle souvent avec Emmanuel, c'est qu'on voit bien que le rapport à travail a complètement changé. Donc il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas forcément un CDI. Il y a quelque chose qu'il faudra, à mon avis, changer aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure des entreprises de médicaments, c'est de faire qu'on peut avoir un crédit d'impôt, même si on a eu un cancer.
Oui.
Un crédit d'impôt, pardon. Avoir un crédit immobilier, même si on a un cancer, ça, c'est encore très, très difficile.
Oui. Absolument.
Il y a des banques qui ont supprimé le questionnaire de santé.
Exactement. Le crédit mutuel, notamment.
Et dans la prochaine étape, c'est que les banques aident aussi ceux qui cherchent à louer. Parce que là, c'est extrêmement compliqué aussi.
Ouais.
Et il y a peut-être des solutions à trouver. Disons que si les banques décident d'être à l'écoute davantage de leurs clients, il y a aussi sans doute des solutions à trouver. Mais c'est vrai que le salariat...
Quand on voit qu'il a fallu attendre 2024, effectivement, pour qu'une banque française se lance et adresse directement une offre pour toutes celles et ceux qui ne sont pas en CDI, vous le disiez, c'est une part croissante de la population...
Voilà, c'est le signal qui est important.
Ça va être intéressant de suivre comment ça va prendre. Et puis
et comment la concurrence va suivre.
Exactement.
Exactement.
On peut penser que la concurrence, maintenant, va regarder ça de très près, va dégainer assez vite.
Surtout que les taux d'intérêt baissent, donc maintenant, ça va être le rapport de force est en train de s'inverser complètement.
Absolument.
C'est intéressant.
Absolument. Merci beaucoup, Marine. Merci. On retrouve cet article, évidemment, sur bfmbusiness.com. On en retrouve, évidemment, plein d'autres tous les jours, 24 heures sur 24. Emmanuel, merci. À très vite. Edwige, on se retrouve lundi prochain.
À lundi, avec un nouveau gouvernement, un nouveau plan à budget 2025.
Peut-être.
Ficelé sans hausse d'impôts pour Emmanuel Lefier.
Quel optimisme.
Ah oui, là. Mais il faut l'être dans la période actuelle. Merci à tous les deux. 18h56. Nous, on revient dans un instant. Le journal. Alors, on a des chiffres qui commencent à fuiter sur le budget 2025. Ça y est, on va voir ça avec Thomas Asportas. Ce qu'on appelle le tiré à part. C'est très technique. On va raconter tout ça. On parlera bien sûr de ces hausses d'impôts qu'ont divisé les ténors des principaux partis politiques. Et puis, on parlera d'ici 20h, notamment avec nos experts, de ce cri d'alarme de l'industrie automobile européenne qui dit qu'il y a des nouvelles normes CO2 qui vont entrer en vigueur l'an prochain. On risque des amendes majeures parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'on ne vend pas assez d'électrique. Et donc, on voit venir des amendes au cumulé de 13 milliards d'euros. On ne peut pas. On demande l'aide de Bruxelles. La folie.
Sur le plan de la théorie économique, tout ce qui se passe est absolument passionnant
C'est l'Europe.
À étudier comme mauvaises incitations, spirales vicieuses. C'est terrifiant, tout ce qu'il ne faut pas faire.
Et c'est l'Europe dans toute sa splendeur. Et on en reparle jusqu'à 20h. À tout de suite.